Sœur Cécile Renoir, dans l'imaginaire collectif, les multinationales représentent une sorte de nébuleuse à laquelle on attribue toutes sortes de mots et un pouvoir démesuré. Qu'y a-t-il de vrai et de faux dans cette présentation ?
On a parfois tendance à diaboliser les multinationales et il me semble que derrière les critiques qu'on leur adresse, il y a aussi toute une critique en fait, du système capitaliste économique tel qu'il a pu se développer depuis une vingtaine ou une trentaine d'années. En gros, le capitalisme libertarien anglo-saxon qui exige un rendement, un retour sur investissement extrêmement élevé à court terme pour les actionnaires. Cette critique-là, elle est tout à fait fondée. Et je pense que si on s'intéresse à la question de savoir comment améliorer le système économique, il faut reconnaître ces dysfonctionnements, le poids énorme de ces acteurs économiques dans le système international, mais reconnaître que les responsabilités sont, disons, partagées.
Alors, certaines firmes sont financièrement comparables à des États. Est-il vrai qu'elles échappent à tout contrôle et qu'elles représentent une menace pour la souveraineté des États ?
La puissance économique de certains grands groupes industriels ou financiers leur donne une forme de pouvoir qui est d'ordre politique de différentes manières. Par exemple, un des grands groupes de communication américains arriverait en termes de richesses produites au niveau du Bangladesh. C'est impressionnant de se dire qu'à peu près 300 000 personnes qui composent ce groupe produiraient autant que plus de 150 millions de Bangladeshis. Donc ça dit quelque chose du poids très fort de ces firmes. Cela dit, il y a quand même une volonté de la part des politiques d'essayer de contrôler ce que font les entreprises. D'une part parce que les États fixent un certain nombre de normes sociales et environnementales. Un des grands problèmes à l'heure actuelle, c'est la mauvaise répartition de la richesse finalement créée par les entreprises. Cette exigence d'une rentabilité à court terme extrêmement élevée pour les actionnaires pénalise ce qu'on appelle les autres parties prenantes. Et donc je crois qu'un des enjeux éthiques et politiques fondamentaux à l'heure actuelle, c'est de s'interroger sur un juste partage de la richesse créée par ces grands groupes industriels et bancaires.
La plupart des firmes multinationales sont originaires des pays développés, elles ont des filiales dans des régions très pauvres. On les accuse souvent de nuire à l'activité économique locale.
Des points de vue, disons, macroéconomiques, c'est vrai qu'il y a eu une tendance à la prédation de la part d'un certain nombre de grands groupes venus exploiter les ressources naturelles des pays du Sud sans que, de façon concrète sur le terrain, on voit un véritable impact en termes de développement local. Alors ça, c'est par exemple très clair, notamment dans la région pétrolière du delta du Niger. Mais on ne peut pas dire que les multinationales soient les seules responsables de cette situation. Elles arguent souvent du fait qu'elles payent des taxes et des impôts au gouvernement de ces pays et qu'elles-mêmes ne sont pas en charge du développement local, mais ce serait bien plutôt les gouvernants et les pouvoirs publics locaux. Cela dit, c'est vrai que les multinationales, dans le passé en tout cas, ont souvent été beaucoup moins exigeantes du point de vue de la protection de l'environnement qu'elle ne l'était dans les pays du Nord, sans mesurer les effets que pouvaient avoir certaines pratiques de redistribution. Par exemple, elle donnait de l'argent à des chefs traditionnels qui étaient censés assurer une fonction de redistribution auprès des villages, auprès des communautés locales. Et puis au départ, peut-être que ces chefs traditionnels ont joué ce rôle-là. Et puis, on voit bien qu'il y a eu cette cupidité généralisée de la part d'un certain nombre de représentants des communautés locales. Finalement, petit à petit, des circuits de corruption qui se sont installés. Et en fait, on voit bien à l'heure actuelle que l'argent n'arrive pas aux plus pauvres.
Alors l'entreprise n'est pas une agence de développement mais un acteur économique. Est-ce qu'on peut demander à l'économie de se conformer à des principes éthiques ?
Je dirais qu'à l'heure actuelle, il y a énormément de contradictions entre les principes que se donnent ou que visent les entreprises multinationales et la réalité sur le terrain parce qu'il y a énormément de structures qui sont encore très injustes. Mais je crois qu'il y a des prises de conscience. L'enjeu, c'est bien de faire en sorte que l'économie soit référée à un projet d'ordre social et politique. Donc c'est mettre l'économie au service d'un projet de développement humain et social. Ça relève d'une préoccupation en termes d'éducation, de formation éthique, à la fois des futurs dirigeants et puis de nous tous citoyens, consommateurs. On voit quand même un certain nombre de groupes, par exemple le groupe Carrefour, qui s'est mis à plaider pour la mise en œuvre de réglementations contraignantes parce qu'ils voient bien que sinon, le risque, c'est la concurrence vers le bas de la part de groupes émanant de pays du Sud.
Donc si j'ai bien compris, les multinationales ne sont pas les seules responsables de la situation.
La responsabilité, elle incombe à la fois aux entreprises qui n'ont pas pris les mesures nécessaires pour s'assurer que l'argent allait vraiment servir au développement local. Et puis, c'est surtout les pouvoirs publics qui sont, dans certains pays, complètement corrompus. Un des enjeux actuels, c'est la collaboration accrue entre à la fois pouvoirs publics, agences de développement, qu'elles soient au niveau international ou au niveau local, entreprises et communautés, de manière à ce que les personnes dans les communautés, dans les villages, soient les premiers concernés et responsables de leur avenir.
Est-ce que la solution passe par l'adoption de nouvelles régulations plus contraignantes et est-ce que les États veulent et peuvent les faire appliquer ?
Les dirigeants de la planète se rendent bien compte que nous sommes, si on peut le dire, en train de jouer avec le feu. C'est-à-dire que c'est la survie même de la planète et l'avenir des générations futures qui est en cause. Je crois qu'il y a à l'heure actuelle justement une volonté internationale d'essayer de mettre en place des régulations, voire des réglementations qui permettraient d'harmoniser les règles du jeu. Je peux citer un exemple qui est l'initiative proposée par Kofi Annan, l'ancien secrétaire général de l'ONU. Il a proposé aux entreprises multinationales de s'engager volontairement à signer ce qu'on appelle en anglais le Global Compact, en français le Pacte mondial, qui est en fait composé de 10 principes relatifs au respect des droits de l'homme, des droits du travail, au respect de l'environnement et à la lutte contre la corruption. La critique qui est adressée à ce pacte mondial, c'est que c'est une initiative volontaire de la part de groupes qui s'y engagent, mais on peut dire que c'est déjà un pas en avant dans la mesure où les entreprises, d'une certaine façon, sont prises au piège de leurs déclarations et sont encore plus soumises au regard de la société civile. Cela dit, c'est vrai que je crois que pour pouvoir changer les choses durablement et à l'échelle de la planète, il faudrait pouvoir mettre en œuvre des réglementations contraignantes pour tous, pour essayer de faire contrepoids notamment aux pratiques de lobbying exercées par un certain nombre de grands groupes qui, c'est vrai, n'ont eu pendant longtemps aucun intérêt à ce que des réglementations contraignantes se mettent en place.